des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Point radio.
Vous écoutez
Dutrisac.
Cube Radio.
Nathalie Ouellette est avec nous. Elle est, mine de rien, astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Madame Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, si tu veux nous parler de le radiotélescope Arecibo au Puerto Rico parce que tu veux parler de soleil sur la plage.
Oh non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est une triste nouvelle que j'ai à te raconter aujourd'hui.
OK.
Donc, c'est un télescope immense de 305 mètres de large. Essaie d'imaginer ça dans ta tête. Et puis, il existe depuis 1963, donc 57 années. Mais malheureusement, il y a eu quelques années très difficiles récemment et il y a eu des bris catastrophiques du télescope dans les quelques derniers mois. Et donc, on a annoncé qu'on va devoir démanteler ce télescope qui n'était pas sinon passé date. Donc, c'est vraiment une triste histoire. On perd un géant, littéralement, de l'astronomie en radio.
Est-ce que c'est ce qu'on voit dans tous les films, là?
Oui, donc, si tu as vu le film de James Bond, GoldenEye, il y a la scène presque finale où il y a une bataille entre James Bond et puis son ennemi. Ça se passe dans ce télescope-là, dans la coupole de ce télescope-là. Il a aussi été figurant dans le film Contact, qui est basé sur le livre de Carl Sagan. Donc, je veux dire, ça a une allure vraiment impressionnante. Une coupole de 305 mètres de large dans une forêt tropicale, ça capte l'imagination. Donc, ça a beaucoup été dans notre culture populaire aussi.
Ouais, mais évidemment, Nathalie, les Chinois ont fait mieux, ont fait plus gros.
Oui, donc jusqu'en 2016, c'était le plus grand télescope à coupole unique dans le monde entier. Mais en 2016, il y a eu le début des opérations d'un télescope qui s'appelle FAST, qui est un télescope aussi radio, et lui fait 500 mètres de large. Donc maintenant, c'est lui qui est le plus gros au monde.
Puis qu'est-ce que ce télescope là, qu'on va démantibuler, qu'est-ce qu'il nous a apporté au fil des années?
Donc, quand on parle de radioastronomie, souvent on pense à la communication, la radio. Et en effet, il y a eu beaucoup d'études avec ce télescope-là reliées aux extraterrestres. On essaie de parler aux extraterrestres avec ce télescope-là. Est-ce que tu connais les sondes Voyager? Et puis, il y avait un disque d'or
oui.
sur ces sondes-là. On avait fait, on a écrit un message pour des extraterrestres si jamais ils le retrouvent. Quelque chose de similaire qu'on a fait avec Arecibo, on a envoyé un message crypté en code binaire. En 1974, ça s'appelle le message d'Arecibo. On l'a pointé dans une direction en particulier où il y avait une grosse concentration d'étoiles à seulement 25 000 années-lumière de chez nous. Mais ça disait, nous, on est qui? C'est quoi notre but dans la vie? C'est quoi les animaux qu'on a? On est où dans l'univers? Pour voir si on pourrait peut-être recevoir un bonjour des extraterrestres qui recevraient notre message.
Mais là, 1974, Nathalie, c'est comme si on recevait un message là, ou tu sais, dans une bouteille qui serait sur une cassette bêta. T'as même pas, la technologie est tellement attardée que t'as même pas accès au message.
Mais pas nécessairement. Je veux dire, nous, on utilise encore les ondes radio. Les ondes radio, c'est tout simplement une forme de lumière qui est pas visible à l'œil humain. Donc, techniquement, une civilisation extraterrestre pourrait capter ces ondes radio-là. Est-ce qu'il serait capable de le décrypter? Ça, c'est quelque chose d'autre. Le code binaire, on pense que c'est un code mathématique tellement simple, tellement de base, que n'importe quelle civilisation extraterrestre pourrait finir par le comprendre, mais on n'a aucune garantie que c'est le cas.
C'est pas
les extraterrestres qu'on a fait. On a fait d'autres choses aussi.
Le code binaire, là, c'est quoi? C'est 0-1, ça?
Oui, c'est essentiellement 0-1. Donc, tous les ordinateurs utilisent ça comme code binaire.
Ouais.
Donc, c'est sous forme logique, c'est quand même assez simple à comprendre. Tu as seulement deux états que tu peux avoir, mais on est quand même capable de d'écrire des messages relativement complexes avec ce code-là.
Mais en même temps, tu sais, c'est quand même hallucinant quand on prend un pas de recul là, puis on regarde dans 45 ans comment notre technologie s'est développée. C'est vraiment ahurissant là. Il était temps qu'on se débarrasse de ce vieux télescope-là.
Mais non, pas vraiment, non. Parce que ce télescope-là continuait de faire plein de choses intéressantes. Dans les années plus récentes, il a beaucoup contribué à l'étude des sursauts radio rapides que j'ai mentionné dans une autre de nos rencontres. Mm-hmm. Mais de façon plus concrète et plus utile, ce radiotélescope-là était super important dans un programme de radar qui détectait et qui faisait le traçage d'astéroïdes proches de la Terre qui font des risques de collision. Donc, on vient de perdre un œil vraiment important dans notre espoir d'essayer de ne pas se faire frapper par un astéroïde.
Ouais, ça, c'est un détail, hein? Ça serait le fun que ça arrive pas.
Ouais, et le télescope chinois, lui, est pas en marche, en fonction de pouvoir faire ce programme-là. Donc, ça, c'est une grosse lacune qu'on a maintenant en démantelant ce télescope-là. Il n'était pas passé date, il était encore très courant. Okay. C'est juste qu'en 2014, il y a eu un gros tremblement de terre à Puerto Rico. Il y a eu l'ouragan Maria en 2017. Ouais. Il y a eu plein de dommages à cause de ça. Et puis, finalement, cette année, deux câbles qui soutenaient la plateforme de 900 tonnes au centre ont brisé et le dernier qui est arrivé en novembre a éventré la coupole. Il y a maintenant un gros trou de 30 mètres de large qu'on est capable de voir de l'espace, en fait.
Ah, oui.
On peut voir maintenant la forêt tropicale qui passe à travers la coupole à cause de ce gros trou qui a été percé dans le télescope.
Mais est-ce que Nathalie, il y a eu absence d'entretien de cette coupole-là, de ce télescope-là? Est-ce que c'est l'administration Trump là qui s'en est pas occupé?
Mais c'est un télescope américain, parce que Puerto Rico, c'est un territoire américain. Donc, c'est la Fondation nationale de sciences aux États-Unis qui s'en occupait. Et depuis les 10 ou 20 dernières années, ils ont diminué leur budget pour l'entretien. Ça a baissé de 8 millions par année à environ 2 millions par année. Donc, il y a eu un peu une baisse. Mais en fait, entre autres, c'est les changements climatiques qui ont causé des désastres naturels plus violent que d'habitude. Et ça a, entre autres, contribué aux grands dommages qui ont causé le démantèlement maintenant de ce télescope-là.
OK, mais en général, tu sais, si tu démantèles un télescope de cette ampleur-là, le premier réflexe, en tout cas, il me semble, c'est d'en construire un nouveau, en tout cas de le rénover. Pourquoi c'est pas à l'agenda?
Donc, ils ont fait des études justement avec des ingénieurs et puis le télescope en ce moment dans son état est tellement précaire que ça serait dangereux pour des ouvriers d'essayer de le réparer parce que c'est des grosses structures. Si on essaie de mettre du monde là-dedans pour essayer de rapetisser tout ça, c'est quand même dans la forêt tropicale. Tu peux pas arriver avec genre tes grosses machines pour faire ça. C'est très délicat, ça serait trop dangereux en fait pour le réparer. Donc la façon la plus sécuritaire de le faire, c'est maintenant de le démanteler délicatement.
OK. Puis, tantôt, tu m'as dit, ça servait aussi à voir venir les comètes,
les astéroïdes.
Est-ce que ça veut dire que là, on est aveugle face à ça, mais on a d'autres façons de voir venir les astéroïdes?
Oui, on a d'autres télescopes qui ont comme mission de regarder les astéroïdes. Donc, on n'est pas du tout aveugle. Mais Arecibo était un important membre de cette équipe-là. Et maintenant, on a on a un vide à combler dans cette équipe-là, justement, parce que on n'est pas aveugle, mais on vient de perdre un gros œil
okay.
qui faisait cette job-là.
Alors, qui prend la relève?
Ah, ça reste à voir. On va devoir voir si on va construire un autre télescope de ce genre-là ou d'autres télescopes plus différents qui peuvent faire une job similaire.
Okay.
Donc, ça reste à voir.
Puis, question niaiseuse, Nathalie, là, mais pourquoi c'était à Porto Rico, ça?
Donc, Porto Rico, c'est assez proche de l'Équateur. Donc, c'est vraiment une entreprise américaine. Ils voulaient le faire sur un territoire américain. Mais parce que c'est proche de l'Équateur, t'es capable de voir une plus grosse partie du ciel dépendant du temps de l'année. Donc, ça l'aide beaucoup parce que quand tu as une coupole de 300 mètres de large, t'es pas capable de bouger ton télescope comme tu le fais pour des plus petits télescopes. Tu peux pas le tu peux pas le pointer. Donc, tu dois attendre que ta cible d'intérêt passe directement au-dessus de toi. Quand c'était plus proche de l'équateur, tu avais plus de chances de voir des parties différentes du ciel.
Mais tu sais ce qu'ils disent, hein? Bigger is not necessarily better, hein?
Ça a des désavantages, en effet, parce que c'est plus difficile à maintenir, à entretenir, mais tu es capable de capter beaucoup plus de lumière, donc tu es capable de voir, par exemple, des astéroïdes qui sont beaucoup plus petits, mais qui pourraient quand même être un danger.
OK, mais le principe, là, Nathalie, de miniaturiser toute la technologie depuis 50 ans, ça s'applique pas aux télescopes?
Non, pas pour les télescopes, parce que les télescopes, c'est comme des grosses chaudières qui essaient d'accumuler le plus de lumière possible. Donc, si t'as une petite chaudière, t'as juste pas beaucoup de lumière à accumuler. Donc, t'es pas capable de voir les choses qui sont très peu brillantes. Donc, on a quand même besoin des gros télescopes. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans la prochaine génération d'essayer de construire des télescopes de plusieurs dizaines de mètres de large.
OK. Là, la démolition de ça, là, est-ce que c'est entrepris ou ça s'en vient?
Ça s'en vient. Il n'y a pas encore un plan qui a été émis par la Fédération nationale de sciences, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a des matières qui sont un peu plus dangereuses dans cette structure-là.
Ah oui.
Et c'est quand même dans la forêt tropicale, donc ça va se faire très, très délicatement.
Vas-tu t'en commander un morceau en souvenir?
Non, je pense pas. Je pense pas que je vais avoir droit à avoir un morceau, malheureusement.
T'es pas une romantique, hein? T'es pas...
si il me l'offrirait, moi, je le prendrais, mais je suis pas impliquée dans ce télescope-là, donc je pense pas que j'aurais le droit.
Je comprends. Parfait. Nathalie Ouellet, astrophysicienne, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
Merci à toi.
Salut. Du Trisac.